Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans la rubrique éphéméride de l'émission Un jour dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au 17 mars 1808, date du décret organisant l'université impériale, et qui en fait demeure un des textes fondateurs du système éducatif français. Pour nous présenter ce décret, j'ai le plaisir de recevoir Jacques-Olivier Boudon. Bonjour monsieur Boudon.
Bonjour.
Spécialiste du Premier et du Second Empire, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris 4 Sorbonne et vous êtes aussi président de l'Institut Napoléon. Vous avez également publié de nombreux ouvrages sur la période. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, non ?
Non, j'ai aussi contribué au volume récemment publié sur la Sorbonne, 700 ans d'histoire ou 750 ans d'histoire, dirigé par Jean-Robert Pitt, qui est venu sur cette même antenne présenter le livre, je crois, il y a peu.
Tout à fait, parfait. Donc, l'œuvre organisatrice de Napoléon est connue dans de nombreux domaines. Beaucoup de ses créations perdurent encore aujourd'hui, que ce soit le Code civil, le Conseil d'État, la Banque de France, les préfets, bon, enfin, bien d'autres encore. Et dans son désir de réorganisation, Napoléon s'est aussi attaqué au système éducatif. Mais là, je dirais que la tâche s'avéra quelque peu difficile. Il dut s'y reprendre à plusieurs fois.
Oui, tout à fait. D'abord, il a commencé dès 1802, donc ça nous ramène à l'époque du consulat, qui est la grande époque fondatrice de toutes les institutions que vous avez rappelées. Et en 1802, en mai 1802, il fonde, c'est ce que l'on retient le plus souvent, les lycées. C'est-à-dire un système qui va favoriser la formation des élites. Et à côté des lycées, il prévoit par ailleurs de déléguer tout ce qui est l'enseignement primaire aux communes et le reste de l'enseignement secondaire également aux communes. Donc vraiment, l'État prend à sa charge la formation des élites dans les lycées. Et par ailleurs, on voit aussi naître ce qu'on appelle à l'époque des écoles spéciales, qui sont ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des écoles professionnalisantes, c'est-à-dire les écoles de médecine, les écoles de droit, l'école spéciale militaire pour la formation des officiers, l'école de pharmacie. Donc finalement, c'est une structure qui est assez souple et incomplète et que Napoléon Bonaparte va compléter en deux temps. D'abord en 1806 par la loi qui est en fait la loi cadre du 10 mai 1806, ce qui fonde l'université, et il faudra encore 2 ans pour que soient pris les décrets de mars.
Oui, parce que c'est une sorte de coquille vide, finalement, cette loi.
Voilà, la loi du 10 mai 1806, elle précise simplement que l'université impériale est créée, que cette université aura le monopole de l'enseignement, qu'elle est une sorte de corporation. Ça, c'était la grande idée de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire que, finalement, les enseignants forment un corps, qu'ils sont dépendant de l'État et que l'enseignement est donné finalement par délégation de l'État. C'est une grande première parce que c'est la première fois que l'État prend à sa charge l'enseignement, l'éducation, quel que soit ce qui le dispense. Ça vaut aussi pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les établissements publics, mais également, puisqu'il en existe, des établissements privés qui dispensent l'enseignement, mais au nom de l'État d'une certaine manière, au nom de la puissance enseignante que devient l'État.
Donc finalement, le décret du 17 mars 1808 organise réellement l'université impériale.
Oui, il vient compléter la loi du 10 mai 1806, donc il a fallu 2 ans. Bon, entre-temps, Napoléon est allé guerroyer un peu partout. Et ce décret va fonder vraiment l'université en instituant le cadre sur lequel nous vivons encore assez largement, d'une certaine manière.
Alors on va voir les principaux points. Et vous venez de le rappeler, là. Donc la première chose, c'est qu'il veut il crée une corporation. L'État exerce un monopole sur l'enseignement à travers le corps enseignant. Et il crée aussi un corps hiérarchisé qui est sous autorité du grand maître de l'université. Et finalement, c'est le cadre encore actuel aujourd'hui.
Oui, à la différence que le grand maître de l'université n'existe plus, mais a été remplacé, si on veut, par le ministre de l'Éducation nationale. Mais l'idée, effectivement, est celle-là, c'est-à-dire un corps hiérarchisé avec à sa tête un grand maître qui fait office de ministre, même s'il n'en a pas le titre. À côté de lui, un conseil supérieur qui va être composé de conseillers, d'une trentaine de conseillers qui ont à s'occuper des programmes et de tout ce qui a trait à l'enseignement. Et puis surtout, la hiérarchie qui s'impose et qui dure jusqu'à nos jours, c'est-à-dire qu'on crée des académies et dans ces académies, à la tête de ces académies, on place un recteur qui est le représentant de l'État dans l'académie, comme aujourd'hui l'académie comprend plusieurs départements. Et ce recteur est vraiment le pivot du système éducatif. Ça devient un personnage très important. Et d'ailleurs, les recteurs vont célébrer eux aussi leur bicentenaire dans les prochains jours. C'est un personnage très important qui domine tout le système éducatif à son niveau, au plan académique. Et puis, c'est aussi ce décret qui, toujours dans la même architecture, va créer l'inspection générale d'abord, et puis l'inspection d'académie. Et ce décret a également remis en ordre le corps enseignant en reprécisant les fonctions dans les lycées, essentiellement dans l'enseignement secondaire, puisque l'enseignement primaire, de fait, reste à l'écart, même si théoriquement il est inclus, mais il reste à l'écart.
Ce
sont toujours les communes qui sont chargées d'organiser l'enseignement primaire. Elles n'y sont pas obligées. Il faudra attendre 1833 et la loi Guizot pour qu'on ait déjà un début d'obligation pour les communes d'ouvrir des écoles. Donc là, elles ouvrent des écoles si elles en ont les moyens, si elles en ont le désir, et elles peuvent faire appel pour ces écoles, soit des instituteurs laïques, qui ne sont pas très nombreux, souvent on dit qu'ils sont d'anciens soldats, ils ne sont pas toujours à un niveau excellent, soit elles font appel à des congrégations religieuses qui vont donner l'enseignement, donc pour les garçons comme pour les filles. Donc il y a un système qui est assez classique, qui imite finalement ce qui se faisait sous l'Ancien Régime.
Et pour le secondaire, donc Napoléon va essayer de développer les lycées.
Alors, il conserve les lycées qui ont été créés en mai 1802, mais il trouve que ces lycées ne sont pas assez développés, donc il va les renforcer à travers des incitations. On crée à côté des lycées, donc les lycées en fait sont situés essentiellement dans les grandes villes des académies, dans le chef-lieu de l'académie. Il y a à côté des collèges, c'est-à-dire que désormais les autres établissements dans les plus petites villes prennent le nom de collège. Ce sont aussi des établissements qui dépendent de l'État, si l'on peut dire, du système qui est créé. Et puis, il y a toujours à côté ce qu'on appelle des écoles secondaires ecclésiastiques, qu'on appelle aussi des petits séminaires, qui sont en fait des établissements privés, mais qui, par la loi de 1806 et les décrets de 1808, de fait, sont intégrés à l'université. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de délégation à ces établissements. Ils demeurent des établissements privés, mais par différentes mesures, ils sont rattachés à l'université et les professeurs et surtout les directeurs de ces établissements sont membres de l'université. Donc c'est en cela qu'on peut parler d'une corporation puisque tous les personnels enseignants appartiennent à la même corporation. Et ce qui fait l'appartenance à cette corporation, c'est finalement le diplôme, puisque l'autre grande disposition de la loi, enfin des décrets de mars 1808, c'est qu'il crée des diplômes qui permettent l'agrégation à, sans jeu de mots, puisque c'est aussi un des diplômes qui réapparaît, l'agrégation à l'université. Le premier de ces diplômes étant bien sûr le baccalauréat, dont on célèbre également le bicentenaire, hein, le baccalauréat, qui est le premier diplôme universitaire qui permet d'entrer dans les facultés. Mais il y a aussi la licence et le doctorat, naturellement, qui lui permet de professer dans les facultés, puisque c'est aussi une des autres dispositions des décrets de 1808 que de créer les facultés.
Aussi, autre chose qui est prévue par ce décret, c'est la formation des enseignants, ou l'école normale est donc remise à jour, je dirais, puisqu'elle avait été créée déjà en 1795.
Voilà, il y avait une première création d'une école normale en l'an 3, mais qui avait été abandonnée très rapidement. Et en 1808, le décret de mars 1808 prévoit la création d'une école normale qui est chargée de former les enseignants des lycées, des professeurs des lycées, à la fois en lettres et en sciences. La scolarité est prévue de 3 ans. Donc finalement, c'est un système qui va se conserver presque jusqu'à nos jours avec des variantes, mais l'objectif est celui-là, fonder un établissement où sont formés les enseignants du secondaire. Donc on va les recruter dans les lycées. Ils viennent à Paris, l'école normale s'installe à peu près au niveau du lycée Louis-le-Grand actuellement, et elle va se développer en parallèle avec la création d'une faculté qui est une faculté de lettres, une faculté de sciences et une faculté de théologie qui s'installe tout à côté, pas encore à la Sorbonne puisque celle-ci est occupée à ce moment-là par des artistes, mais à côté dans un ancien collège. Et en parallèle, les deux établissements vont fonctionner, c'est-à-dire que les étudiants, enfin les normaliens, vont suivre parallèlement les cours des facultés, soit de lettres, soit de sciences, selon qu'ils sont littéraires ou scientifiques.
Voilà, alors il y a 5 facultés qui sont créées, donc la plus importante, je crois, c'est le droit, au départ.
Voilà, il y a tout à fait 5 facultés. Le droit, c'est la plus importante, puisque, pour donner un chiffre, vers 1814, il y a en gros 6000 étudiants en France et environ 2000, ou même un peu plus, sont en droit. Donc, les facultés de droit sont les plus importantes. Viennent ensuite les facultés de médecine, en nombre d'étudiants, qui se développe également. Les trois autres sont finalement à couplées, si je puis dire, ce sont les facultés de lettres. Alors, elles sont nombreuses sur le territoire parce que ce sont les facultés de lettres qui délivrent le baccalauréat S-Lettres, puisque le baccalauréat S-Lettres, à l'époque comme encore aujourd'hui, est un diplôme universitaire, donc il est délivré par les facultés. Il y a des facultés S-Sciences qui délivrent aussi, enfin, qui donnent une formation en sciences, et puis il y a des facultés de théologie qui sont établies ou recréées, puisque les facultés de théologie, évidemment, existaient sous l'Ancien Régime, avaient disparu et elles sont refondées, ce qui s'inscrit tout à fait dans la perspective de cette législation sur l'université qui fait de l'enseignement religieux un des piliers, on peut dire un des trois piliers de l'enseignement. Il y a l'enseignement littéraire, les humanités, l'enseignement scientifique et l'enseignement religieux. Ce sont finalement les trois axes. Et c'est une des grandes différences avec ce qui s'était fait en 1802, où en 1802, on avait laissé totalement de côté l'aspect religieux, mais là, on sortait de la Révolution, et finalement, la dimension religieuse était peu présente. En 1808, elle est beaucoup plus présente.
Et d'ailleurs, c'est Fontane qui va assumer les fonctions de grand maître de l'université au départ. Et ce choix de Fontane note bien la volonté de Napoléon d'orienter vers le domaine religieux. Enfin.
Oui, puisque Fontane est connu pour être... Alors, c'est un écrivain, un poète, mais il est surtout connu pour être un des représentants de ce qu'on appelle le courant néo-monarchiste. Il est lui-même donc lié avec des hommes comme Chateaubriand. Il était quand même, ce n'est pas un personnage négligeable, il était président du corps législatif, donc c'est déjà un des hauts personnages de l'État. Mais il est nommé effectivement à la tête de l'université impériale, à la place de celui qui s'attendait à être choisi, puisqu'il avait été le grand homme de la préparation de la loi, qu'il était directeur de l'instruction publique depuis 1802, mais il avait peut-être le désavantage d'être trop marqué, justement, par ses origines révolutionnaires. Donc, il s'agit du chimiste Fourcroy, qui, pour le coup, lui, n'est pas du tout porté vers la religion. Donc, on a beaucoup dit, et c'est en partie vrai, qu'avec Fontane, c'est une orientation en direction des principes religieux qui avait été effectuée. Et d'ailleurs, Napoléon lui-même, à Sainte-Hélène, on le voit dans le mémorial, regrette cette orientation. Il pense qu'il y avait là un foyer de résistance, presque d'opposition, qu'il avait lui-même créé.
Oui, puisque très vite, les rapports avec l'Église vont s'envenimer après 1808, enfin à partir de 1809. Et ça va être une des causes, je dirais, d'un nouveau décret qui va avoir lieu en 1811.
Oui.
Pour affaiblir un peu la
oui, parce que Napoléon s'est rendu compte...
La puissance de l'Église.
En 1808, on est à peu près encore... C'est précisément à la veille de la crise avec le pape, puisqu'elle commence véritablement au printemps, lorsque Pie VII refuse d'accorder son investiture canonique aux évêques nommés par Napoléon. En 1809, on le sait, Napoléon annexe Rome, et le pape réagit en fulminant une bulle d'excommunication qui vise directement Napoléon Bonaparte, donc il sera placé en résidence surveillée à Savone. Et à ce moment-là, les relations sont extrêmement tendues et l'Église n'est plus aussi utile, ou en tout cas, on se méfie davantage d'elle. Et donc, en novembre 1811, Napoléon prend un nouveau décret, cette fois-ci, qui vise les petits séminaires ou les écoles secondaires ecclésiastiques pour en limiter la puissance. Donc, c'est un décret qui va tenter de les vider de leur substance au profit des lycées. Et c'est dans le même ordre d'idée qu'on va augmenter le nombre des lycées en 1811. On fait passer à 100, bon, chiffre évidemment rond, qui plaît beaucoup à Napoléon. 100 lycées pour un empire qui compte alors 130 départements. 100 lycées qui doivent se nourrir de tous les fils des élites. Alors, à l'époque, il y a très peu d'enfants qui fréquentent les lycées. C'est quelques milliers. Au total, l'ensemble de l'enseignement secondaire, c'est 45 à 50 000 enfants. Je rappelle qu'il n'y a que 2000 jeunes qui sont bacheliers. Donc, c'est pour relativiser par rapport à notre époque. Mais néanmoins, c'est un domaine qui est important parce que ça favorise la formation des élites. Et donc, à partir de 1811, on tente de limiter la puissance de l'Église. Mais finalement, c'est un peu tard et le décret aura peu de temps pour se mettre en place puisque l'Empire va vers sa chute.
Mais il confirme en tout cas la volonté de Napoléon de renforcer le monopole de l'État en matière d'enseignement.
Oui. Puisqu'en fait, les petits séminaires donc, ne sont pas supprimés, mais les élèves des petits séminaires doivent suivre la formation des lycées ou des collèges. Il est même prévu que les petits séminaires ne peuvent être installés que dans des villes où il y a à côté un collège ou un lycée. Autrement dit, les petits séminaires deviennent une sorte de pension où les élèves qui se destinent à la prêtrise peuvent avoir une formation particulière, des exercices religieux, mais l'essentiel de la formation, elle est dispensée dans les établissements publics, dans les collèges et dans les lycées.
Alors le système actuel éducatif est bien différent de celui de 1808, mais pourtant on voit bien qu'il a été profondément marqué par cette création napoléonienne.
On a conservé finalement la structure, une structure hiérarchisée, pyramidale, avec, alors ça va peut-être changer, ça commence à changer, mais avec des décisions qui partent d'en haut, d'un ministre, à l'époque le grand maître de l'université, et jusque dans la dénomination, on a conservé le nom de lycée, on parle toujours de proviseur, on parle toujours
les
de
grades.
Recteur, les grades ont été conservés, alors on critique, j'évoquais tout à l'heure Jean-Robert Pitt, on critique le bac, évidemment le bac n'a plus la même nature que par le passé, mais enfin dans les textes, il demeure tout de même le premier diplôme universitaire. Il est le sésame qui permet d'entrer à l'université. Donc les grades ont été conservés. Et je dirais finalement aussi un certain esprit, parce que ce qui a été fondé en 1808, c'est un corps enseignant, c'est une corporation. Et évidemment, celle-ci a explosé, puisque c'était quelques milliers de personnes qui étaient concernées en 1808. C'est presque 1 million, je crois, aujourd'hui. Ce personnel a encore le sentiment, finalement, d'appartenir à une sorte de corporation. On parle très souvent du corporatisme des enseignants, mais je crois qu'indirectement, c'est sans doute une des conséquences de ce qui a été mis en place à l'époque napoléonienne. Il ne faut pas exagérer, bien sûr, mais enfin, bon, on s'aperçoit, et c'est peut-être aussi en résistance également à la structure hiérarchique et pyramidale que j'évoquais à l'instant.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Jacques-Olivier Monboudon d'être venu au micro de Canal Académie pour présenter ce texte fondateur de l'université. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission.